Les marchandes de sable, le conte des conteurs de Nasser Remir, quatrième épisode. Pendant un mois, les femmes remuèrent la ville, puis ciel et terre. Elles peinaient à cœur Hassan et son malheur, mais personne ne connaissait l'histoire. Et le père de l'adolescente resta de marbre devant le désir de toutes les femmes de la ville. L'heureux fut raffermi leur envie de sauver Hassan. Elles veillèrent toute la nuit, et dans le jour qui pointait, elles allèrent consulter la plus vieille d'entre elles, car on dit que dans chaque vieille femme, il y a 99 femmes réunies. « Je me souviens, » dit-elle, d'une femme nommée Doniazade, qui avait entendu tant et tant d'histoires qu'elle connaîtrait sûrement celle de l'homme qui regretta là où le regret ne sert plus à rien. Je vous conseille d'aller la trouver, mais je ne suis plus sûre. Je suis si vieille. Je crains que cette femme ne soit qu'un nom dans une histoire. » Alors les femmes se réunirent encore trois nuits et décidèrent de partir. Toutes voulaient être les messagères de Hassan. « Mais, dit ma grand-mère, il fallait bien que certaines restent pour la bonne marche de la cité. » Alors on laissa le sort en désigner 40. Quant aux hommes, ils acceptèrent de mauvaise grâce ce départ. Et pour leur tranquillité, ils exigèrent qu'elles soient accompagnées au moins d'un homme pour les garder. Mais tous voulaient être cet homme. Ils se disputèrent longtemps pour finir par choisir un enfant. Et cet enfant, ce fut moi. La 14e nuit de la lune de Muharram, les femmes mirent leurs plus beaux habits et prirent leur voile de fête. Elles partirent avant l'arrivée du mendiant. Elles ne cessèrent de voyager de ville en ville, et dans chaque ville, elles se partageaient les quartiers et enfilaient les maisons comme des perles à la recherche de l'homme qui. Le soir, elles se rassemblaient et énuméraient chacune des histoires de la journée. Mais jamais nulle trace de l'homme qui. Elles finissaient toujours par raconter la même histoire à tour de rôle, car elles la connaissaient toutes. Les autres savouraient, vigilantes. L'une commençait ainsi. On raconte que dans les temps anciens, deux frères s'en étaient allés voir l'état de leur destinée sur le chemin d'Allah. Dans l'auditoire, une femme corrigea. Deux princes. Et celle qui racontait reprit. On raconte que dans les temps anciens, deux princes s'en étaient allés voir l'état de leur destinée sur le chemin d'Allah. Ils voyagèrent jour et nuit jusqu'à ce qu'ils arrivent à un arbre au milieu d'une prairie, près d'une mer salée. Ils s'arrêtèrent pour se reposer. Une heure ne s'était pas écoulée que la mer se mit à s'agiter, et à l'horizon, l'écume tourbillonna et monta vers le soleil en dessinant des arabesques. Lorsqu'elle atteignit l'azur du ciel, elle se transforma en un magnifique elfrit, la tête dans les nuages et les pieds dans les vagues. Il portait sur la tête un coffre d'ébène. Effrayés, les deux princes montèrent au plus haut de l'arbre pour les observer. Le génie sortit de l'eau et posa le coffre au pied de l'arbre. Il ouvrit sept serrures l'une après l'autre. Alors sortit une belle adolescente qui se posa délicatement sur l'herbe. Le génie se pencha sur elle. « Oh ma maîtresse, je suis là. J'ai écumé des mers, traversé des espaces et des terres. Je voudrais m'assoupir, ne serait-ce qu'un instant, sur tes genoux. » L'efflit posa sa tête et s'endormit en paix. L'adolescente regarda à droite, à gauche, en haut, et elle aperçut les deux princes perchés sur l'arbre. Alors elle souleva la tête de l'efflit, la reposa sur un galet froid, et elle leur fit signe de descendre. Ils désignèrent l'efflit avec terreur. L'adolescente leur dit d'un geste, « Oh, vous deux, descendez au plus vite, ou je réveille l'efflit, et vous réduira en poussière. » Ils obéirent à l'adolescente, et elle les entraîna derrière une dune. Là, elle les soumit à son plaisir, et ils firent d'elle, tous deux, ce qu'elle leur avait ordonné. Ils allaient partir quand elle les rappela. « Oh, vous deux, avant de partir, donnez-moi vos bagues !» Et de son sein, elle sortit un collier fait de 570 bagues, auquel elle ajouta celle des deux princes. Avant de reprendre la tête de l'efflit sur ses genoux, elle leur dit « Sachez que cet efflit m'enleva la nuit même de mes noces, qu'il m'enferma dans ce coffre fermé de sept serrures et qu'il le cacha tout au fond de l'océan. Mais sachez-le bien, lorsqu'une femme d'entre nous désire quelque chose, rien ne saurait l'arrêter. » J'ai compris bien plus tard pourquoi les femmes aimaient tant cette histoire. Ce qui m'amusait, c'est qu'elles lui imaginaient plusieurs fins. Les unes prétendaient que l'adolescente rencontra un homme qu'il aima et qu'elle aima, et qu'ils partirent ensemble sans que jamais le génie ne les retrouvât. D'autres racontaient qu'elle continua longtemps à tromper le génie et que son collier de bagues s'allongea. Enfin, les plus âgées d'entre elles affirmaient qu'un jour le génie surprit l'adolescente, lui arracha son collier et dans sa colère sema les bagues aux quatre vents. Celles qui croient à cette version avancent souvent les yeux rivés au sol dans l'espoir de trouver une des bagues de l'adolescente. J'ai traîné trois lunes derrière les voiles des 40 femmes. Je tissais ma patience pour le plaisir de voir à chaque instant Zobeïda, Amina et Fahima, les trois sœurs. Au mois de Rajab, elles arrivèrent devant une ville splendide et prospère. L'hiver n'avait aucune prise sur elles et le printemps la couvrait toujours de ses roses. Et ces femmes ne connaissaient pas le voile. Alors elles s'arrêtèrent, se consultèrent et abandonnèrent leur voile aux portes de la ville. J'en étais le gardien. Je m'ennuyais, seul aux portes d'une ville inconnue, gardien de 40 voiles de femmes, lorsqu'une foule s'est formée près de moi, autour d'un derviche tourneur qui racontait une histoire. J'approchais et j'écoutais. On raconte, disait le derviche, que dans les temps anciens, un roi nommé Yunan était riche et puissant, mais son corps était affligé d'une lèpre rebelle à tout remède. On finit par désespérer de sa guérison, quand un jour arriva dans la ville un magnifique vieillard à barbe blanche. C'était un médecin renommé. Il se présenta devant le roi et dit « Je connais le mal qui altère ton corps. Je vais le traiter sans te faire boire de médicaments ni t'enduire de pommade. » Le roi, bouleversé, le pria de hâter le jour et l'instant de sa délivrance. Alors le médecin s'enferma une nuit. Il fabriqua un maillet pétri d'extraits de plantes et de médicaments. Il en creusa l'extrémité et l'adapta à une canne. Il fit aussi une boule de la même nature. Puis il revint chez le roi et lui demanda de se rendre à cheval au Maïdan. Alors le roi s'y rendit, entouré de ses émirs, ses chambellans et ses vizirs. Et le médecin lui remit la boule et le maillet. Empoigne le maillet de cette façon et frappe la boule de toutes tes forces. Quand la paume de ta main transpirera, le remède circulera dans ton corps. Alors le roi prit le maillet, monta à cheval et les cavaliers aussi. Il lançait la boule et galopait derrière. Tout cela durant une heure. Lorsque le roi eut bien transpiré, le médecin lui ordonna de rentrer au palais et de se baigner dans son hammam. Quand il sortit du bain, le roi découvrit son corps pur comme l'argent vierge, sans aucune trace de lèpre. Le lendemain, il s'assit au diwan, entouré de ses émirs et de ses vizirs. Il fit venir le vieux médecin et le combla de ses bienfaits. Il ne cessait de louer son art et le prit pour compagnon et pour ami. Or, parmi les vizirs, il en était un pétri de jalousie et de haine, un envieux. Petit à petit, il déversa son fiel jusqu'à semer le doute dans l'esprit du roi. « On ne peut se fier à ce médecin, » disait-il. « Un homme qui t'a guéri avec si peu de choses peut te tuer avec encore moins. » Mais le roi ne l'écouta pas, car il connaissait l'histoire de Sinbad qui regretta trop tard son fidèle faucon. Le temps et l'acharnement du vizir gagnèrent peu à peu le cœur du roi, et il demanda ce qu'il fallait faire du médecin. « Il faut le convoquer, » répondit le vizir, « et l'exécuter sans plus tarder. » On amena le médecin, et le roi lui annonça sa mort. Étonné, celui-ci demanda la cause d'un tel châtiment, et le roi dit « Si tu m'as guéri avec un maillet, il te faudra encore moins pour me tuer. » « Est-ce ainsi, » dit le médecin, « que tu rends le mal pour le bien ? Ne me tue pas, ou Dieu te tuera. » Les émirs, les chambellans et les vizirs intercédèrent auprès du roi, mais en vain. Lorsqu'il comprit qu'il n'y avait plus de recours, le médecin demanda au roi de lui accorder un délai pour se libérer de ses attaches et rassembler les livres qu'il voulait donner. « D'ailleurs, dit-il, j'ai un livre que je veux t'offrir en présent, dont les pouvoirs sont infinis. En me coupant la tête, ouvre ce livre à la troisième page. » Lis ensuite trois lignes et ma tête coupée parlera et répondra à toutes tes questions. » Le roi, émerveillé, lui permit de s'en aller entre deux gardes. Le lendemain, le médecin revint, tenant un livre très ancien et une petite boîte de poudre. Il demanda un plateau, y versa la poudre et l'étala. « Ô roi, prends ce livre, mais ne t'en sers qu'une fois ma tête coupée. Alors, tu la poseras sur ce plateau. » Et la poudre étanchera le sang. Puis, qui ouvrira ce livre. Mais le roi, dans sa hâte, ne l'écoutait déjà plus. Il s'empara du livre et l'ouvrit. Les pages étaient collées les unes aux autres. Il mit son doigt à sa bouche pour l'humecter de salive et détacha ainsi la première page, la deuxième et ainsi de suite. Il essayait de lire, mais les pages étaient vides. Le médecin dit « Tourne davantage de la même manière » et le roi continua. Mais à peine eut-il tourné quelques pages que le poison circula dans son sang, car le livre était empoisonné et il mourut sur le champ. À peine le derviche eut-il terminé son histoire que je me rappelais les voiles. Je me retournai. La place était vide. C'étaient des voiles de fête tissées en soie de Mossoul et d'Alexandrie. À regret, je m'enfuis pour échapper à l'orage des 40 femmes. J'étais triste de ne plus voir Zobéida, Amina et Fahima. Ne connaissant personne, je quittai mon enfance et je suivis le derviche. Je le servis toute une année comme son fils. À la fin de l'année, il me dit « Quel est ton souhait ?» Je lui demandai s'il connaissait l'histoire de l'homme qui regretta, là où le regret ne sert plus à rien, car j'avais envie de rentrer chez moi, retrouver Hassan, ma grand-mère et mon grand-père. Il m'amena dans un port et m'encouragea à embarquer. Avant de me quitter, il répéta trois fois « Si tu veux trouver ton histoire, pense toujours que dans chaque conte que tu entends, il y a un peu de celui que tu cherches. » Et il me confia au capitaine.